Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous sommes accueillis aujourd'hui par Daniel et Odile à la ferme des Alvergnes, à quelques brassées de la rivière Tarn, en pleine raspe broquiessoise. Alors Daniel, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Bonjour, donc je m'appelle Daniel Saint-Geniès, je suis Aveyronnais d'origine, fils de paysan. Mon père était paysan sur le Ségalal, du côté de Requista. Et donc nous, on s'est pointé dans le sud Aveyron dans les années 85. On s'est installé. Au départ, on avait un projet collectif, mais bon, au final, il n'y a que moi qui suis resté sur une ferme au bord du Tarn qui s'appelle Les Alvergnes, en élevage ovin-viande. Je suis locataire d'un GFA, d'un groupement foncier agricole, qui est le propriétaire des terres des Alvergnes. D'accord. Et je suis propriétaire de la maison d'habitation. On est propriétaire, Odile et moi, de la maison d'habitation. Nous vivons en couple et avons une petite fille. Et depuis peu, on est papy et mamie.
Voilà. Voilà. Félicitations. La ferme des Alvergnes, c'est sur quelle commune ?
Saint-Isère.
Donc, toi, tu es né dedans, dans l'agriculture. Et tu as prolongé un peu le travail de tes parents ou tu es parti sur une autre forme d'agriculture ?
Non, oui, je suis né dedans. J'ai toujours fait ça depuis que je suis petit. Enfin, j'ai passé quelques années à bosser en usine sur Toulouse. J'ai voyagé un petit peu. Voilà, j'ai traîné sans trop travailler aussi pendant quelques années. Et j'étais berger salarié en montagne. En élevage ovin-lait, j'ai trait des brebis laitières pendant deux ans, je crois. Et puis, on vivait sur un collectif à quatre personnes. Et puis, voilà, il y a une personne qui a dit que ça serait bien, peut-être qu'on essaie de mettre en place un projet agricole. Et de fil en aiguille, on s'est mis à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et on s'est mis à chercher une ferme. Et le hasard a voulu qu'on trouve ici.
Et depuis, vous y êtes, et vous y êtes bien.
Oui, ouais, depuis on y est, depuis ça fait... Ouais, en 85, ça commence à faire, hein, ça fait une quarantaine d'années bientôt. Ouais. Et voilà, on est sur la... Je suis en fin de carrière, je vais arrêter, normalement j'arrête en 2023.
Ah, bientôt la quille. Ouais. Et alors tu dis c'était un projet collectif au départ, et finalement vous vous retrouvez tout seul. Comment ça se fait ? Il y a eu des divergences, il y a eu des gens qui ont plus suivi le projet ?
Non, c'était juste une notion de rapport humain. Il y a eu des mésententes entre nous qui a fait que on était deux couples à vouloir travailler ensemble, il y a un couple qui est parti. Et puis après, Odile et moi, on travaillait ensemble. Et c'est vrai que financièrement, on n'y arrivait pas. Et en fait, Odile est allée travailler à l'extérieur. Et moi, j'ai continué à bosser sur la ferme, seul.
Et les GFA, donc, tu loues les terres, mais tu es propriétaire de ton bien, de ton habitation. Il ne faut pas que tu la laisses une fois que tu es à la retraite.
Si, enfin, après, je suis libre de le vendre ou d'en faire ce que je veux.
Mais c'est à toi.
Voilà. Ouais. On a été... Enfin, ce n'est pas un choix. Hein. Quand on s'est installé, on nous a obligés à acheter les bâtiments et on nous a loué les terres. Quoi. Et le GFA nous a loué les terres. C'était une ferme qui était en faillite, il y avait des gros problèmes financiers. C'était le Crédit Agricole qui... On a racheté tout au Crédit Agricole, finalement, pour éponger les dettes de nos prédécesseurs. C'est le même principe que Terre de Liens. C'est-à-dire que là, au lieu d'être au niveau national, c'est-à-dire au niveau national, Terre de Liens, il collecte de l'épargne, il collecte des parts et il loue, il met à location. Là, c'est pareil, c'est... localement, sur une ferme, tu collectes de l'épargne, ou tu rachètes les parts, peu importe, à l'occurrence, tu rachètes les parts, et tu mets en location à un fermier.
D'accord.
Avec un bail de carrière, des choses comme ça, qui assoit le fermier pour toute sa vie sur la ferme. En plus, il n'y a pas que moi qui suis actionnaire. Il y a 200 parts qui sont à d'autres personnes. Mmh. Et donc, voilà, il y a 3000 euros de fermage, je ne me rappelle plus combien c'est de fermage, 3500 euros peut-être de fermage.
À l'année ?
à l'année, ouais. Et il y a 2000 euros. Pour nous, je pense qu'on a 2000 euros de rémunération de capital par an, quoi, à peu près. Bon. On ne l'a pas fait dans un but de faire un placement d'argent. On l'a fait dans un but de pouvoir trouver un repreneur sur la ferme et mettre une pérennité sur cette ferme-là.
Non, je voulais ajouter que peut-être que dans l'idéal, ce serait que le successeur, au bout de 20 ans, peut-être comme nous, enfin je ne sais pas, quand il sera bien assis, il puisse lui-même racheter les parts du GFA. Nous, pendant 20 ans, l'ancien actionnaire principal nous mettait la pression pour qu'on achète les terres. Et on n'avait pas les moyens, ce n'est pas possible. Et puis bon, après, au fil du temps... On y est arrivé, voilà. Donc ça serait peut-être aussi l'objectif, parce que je ne suis pas sûre que notre fille, dans 30 ans, ait très envie d'être actionnaire principal du GFA.
Donc tu me disais, tu fais de la brebis viande. Et j'ai entendu dire aussi, par ailleurs, que tu élevais des chiens pour des border collés, et qu'après, tu les cédais à d'autres paysans. C'est une activité que tu as fait comme ça en dilettante, si je peux dire. Je vois ta moue un peu.
Non, mais j'en fais pas. Moi, c'est pas une profession. Hein.
C'est une passion en plus.
C'est une passion et plus un service que je rends. Enfin, faut le voir davantage comme ça qu'une recherche de pécuniaire, hein, parce que je fais très très peu de portées. La dernière portée que j'ai fait, c'était il y a 10 ans peut-être. Et donc des fois j'achète des chiens, enfin voilà, j'achète des chiens, je les dresse, et mon plaisir c'est de dresser les chiens, et si le chien me convient pas, c'est vrai que j'essaie de trouver quelqu'un qui sera content de bosser avec ce chien là c'est plus comme ça que je le fais, plutôt que pour gagner des sous avec, quoi. D'accord. Et puis aussi pour rendre service, là il y a notamment un gars là qui avait pas de chien, qui était complètement démuni face aux brebis qui sautaient partout. Et ben voilà, j'ai prêté ma chienne en attendant de trouver une solution.
Parce que c'est sa passion et ça prend beaucoup de place dans sa vie. Hein.
Ah ouais.
Oui.
Ah. Oui, mais pas.
C'est un outil de travail au même titre qu'un tracteur.
En fait, c'est ma passion. Hein. J'aime bien dresser les chiens. J'aime bien passer. Tu vois, ce matin, là, j'étais à 6h en train de faire travailler mon chien à la fraîche. Et ça me prend 1/2 heure tous les jours. Mais il faut que. C'est nécessaire pour mon équilibre de passer au moins 1/2 heure avec mon chien à le faire travailler sur les brebis tous les jours.
Éventuellement, tu continueras à le faire une fois que tu auras lâché à faire.
Et ouais, j'aimerais bien. Ouais.
Ah, d'accord.
Ouais.
Pourquoi est-ce que tu as choisi la brebis viande ? Alors qu'ici, le roquefort, ça marche tellement bien. Et... Pourquoi t'entêter, toi, à vendre des agneaux ?
Parce que j'étais passé tout bêtement. Pendant des années, je me suis réfugié derrière le fait qu'il y avait des quotas et que je ne pouvais pas traire. Mais en fait, je suis trop fainéant pour traire des brebis. J'ai beaucoup bossé en tant que berger sur... en montagne, j'ai bossé en Irlande aussi sur des élevages de brebis viande, et c'était ce qui correspondait, c'était mon envie, ça répondait à l'envie, à la façon dont je voyais le travail, mon travail journalier que je pouvais faire autour des brebis.
Et sinon, tu en as bien vécu ton métier, tu t'es pas trop endetté, tu as pu partir en vacances
Maintenant, on en vit bien, on a eu une quinzaine d'années qui n'étaient pas très folichonnes financièrement. Mais maintenant, financièrement, ça va à peu près. Ouais. J'ai pas spécialement de soucis financiers. Et on arrive à mettre des sous de côté depuis quelques années.
Du temps que tu payais ton crédit, peut-être, c'était plus difficile.
Oui, forcément. Ouais, on s'est un petit peu endetté, mais c'est surtout que, on est arrivé dans une période où quand on empruntait, c'était à 12 ou 13%. Et où le prix de l'agneau s'est complètement cassé la figure, la production ovine a disparu du département. Ovin viande, il y avait peut-être 2000 éleveurs il y a 40 ans. On a participé à des manifestations avec la Confédération paysanne, là où c'était vraiment, l'élevage était vraiment dans une impasse. Il n'y avait pas de PAC. Il n'y avait aucune aide, quasiment. Mmh. Et donc, petit à petit, la PAC s'est mise en place. Il y a eu... Le changement a commencé en 92, avec une aide. Avant, le complément de prix se faisait au kilo d'agneau, au kilo de blé qu'on vendait. Maintenant, et à partir de 92, il y a eu une aide qui était directe aux paysans. Mmh. Et ça a augmenté au fur et à mesure des années. Et donc, c'est vrai que notre revenu a suivi un petit peu l'augmentation de la PAC.
Parce qu'on entend parler, les jeunes agriculteurs, quand ils s'installent, Il s'endette sur 1 million d'euros, parce qu'il faut qu'il rachète les terres, la ferme, le matériel. Comment vous êtes débrouillé ?
Eh bien, on est parti avec peu de matos, avec l'ACUMA. C'est coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est, en fait, c'est une espèce de structure associative qui achète le matériel. Mmh. Et nous, on le loue à l'ACUMA.
D'accord.
Et donc, ça permet de pouvoir avoir accès à du... Moi, j'ai un 160 chevaux en ACUMA. Mmh. Je fais un tracteur de 160 chevaux. Je fais quoi, 20 heures par an, à aller autour de 20 euros de l'heure. Donc, ça me permet, avec 300 euros, d'avoir accès à un matériel qui vaut 100 000 euros. Et il y a des charrues, tout le travail du sol peut se faire, la presse pour faire le foin, pour enfoncer les piquets.
Il y en a une, Cuma, ici.
À Broquies.
À Broquies ?
Ouais,
ouais. Ah, d'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de la Confédération paysanne. Tu as connu le mouvement ?
Ah oui, oui. J'étais au comité départemental pendant des années. On a participé.
Au démontage du McDo.
Et on était en vacances là. Ah, ouais. on a loupé ça. Ouais. Mais d'accord. Après, on a fait beaucoup d'actions.
Ouais. Oui.
Ouais, on a soutenu, on a participé aux arrachages. Mais bon, c'est pas que ça. C'est aussi toute la bagarre autour de l'agriculture paysanne et tout ça.
Oui, oui, oui. La bataille contre les OGM aussi.
Voilà.
Et donc, tu y es toujours ?
Oui, oui, je suis toujours adhérent. Ouais.
D'accord, adhérent.
Mais moins actif. J'étais aussi pendant longtemps investi au niveau de l'ADR Aveyron. C'est une structure qui est, on va dire, c'est l'outil de développement de la Confédération paysanne. On travaille beaucoup sur l'accueil et l'accompagnement de porteurs de projets agricoles.
Vous proposez d'encadrer...
Voilà, et d'accompagner les porteurs de projets qui ont... En fait, c'est pour répondre un petit peu à une demande de tous les hors-cadres familiaux qui n'avaient pas trop de réponses sur des projets alternatifs qui paraissaient peu crédibles pour notamment certains à la Chambre d'agriculture. Donc nous, on était là pour essayer de dire c'est des vrais projets agricoles et on fait le pari qu'ils arriveront à vivre de leurs envies et que ça sera un vrai projet professionnel.
Au début, moi, je chantais ça tout bas. J'avais bien trop peur qu'on se moque de moi. J'avais peur qu'on me traite de fou, de romantique ou de jaloux. Mais sur mon tracteur ou sous ma douche, j'avais toujours ce refrain-là à la bouche. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Oh, trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Mais pourquoi qu'on les ferme? Ben, je me demande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Après sont arrivés des boulangers, des charcutiers, des épiciers, des mécaniciens et des marchands de chiens, des pharmaciens et même le curé du coin. Tous ces gens-là qui mettront la clé sous la porte le jour où la vie chez nous, elle sera morte. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Mais pourquoi qu'on les ferme? Je me demande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Après c'était les enfants et les maîtresses d'école et tous les parents dont les rêves s'envolent. Les propriétaires de maisons sans valeur, les fermiers sans terre ou sans successeur, tous ceux qui aiment la nature pour s'y promener et qui voient que si ça dure, il va plus rien rester. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Oh, trois petites fermes valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes valent mieux qu'une grande. tous ces paysans qui vont quitter leur vallée, au Pérou, à Ceylan ou en Guinée. Partout les mêmes lois, la même chanson, celle du chacun pour soi, c'est la loi du plus con. Au début, moi je chantais ça tout bas, j'avais bien trop peur qu'on se moque de moi. Et on y voit les épiciers. Trois petites fermes, valent mieux qu'une grande,
et les maîtresses d'école.
Trois petites fermes,
et les parents,
valent mieux qu'une grande,
et elles sont bonnes.
Mais qu'on m'enferme, ou qu'on me pende. Trois petites fermes, valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes, valent mieux qu'une grande. Trois petites fermes, valent mieux qu'une grande. Pourquoi qu'on les ferme, oh je me demande. Trois petites fermes, mieux qu'une grande.
Tu me disais tout à l'heure, donc je voulais, d'habitude j'aime bien faire la visite de la ferme, mais tu n'as plus de brebis là, tu les as mis en estive, c'est ça? Elles sont où tes brebis alors exactement?
Elles sont dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, pas loin de... En fait c'est frontalier avec les Pyrénées-Atlantiques, c'est... Dans le Val d'Azun, ça s'appelle.
D'accord.
Un petit, avant de prendre le col de l'Aubisque et du Soulor. Elles sont dans un endroit où il fait... Je viens d'y passer 5 jours, là, et ouais. Il faisait 39 en Aveyron, et il y avait de l'orage, et 25 degrés dans les Pyrénées.
Ouais, d'accord.
Un vrai régal. J'ai 350 brebis. À l'époque, enfin, maintenant, en vente directe, c'est peut-être un peu plus facile de sortir en revenu, mais je vends par l'intermédiaire d'un groupement de producteurs. Je ne fais aucune commercialisation en direct. Et donc, il faut peut-être un peu plus de brebis pour arriver à sortir en revenu. Et donc, la ferme n'était pas assez grande pour accueillir 350 brebis. Et il a fallu que je trouve une alternative pour arriver à nourrir mes brebis. Et il y avait plusieurs choix. Il y avait où j'achète du foin, où je loue des hectares, où je m'agrandis, où je fais... Voilà. Et en fait, comme j'avais déjà pas mal gardé en montagne et que c'est une approche qui me plaît énormément, cette conduite de troupeau, j'ai essayé de trouver des estives. Des estives, le hasard a voulu que, grosso modo, il n'y a que dans les Pyrénées, que c'est financièrement accessible, ouais. Le Massif central et tout ça, c'est bien, le prix de location à la brebis est beaucoup trop élevé.
D'accord.
Et donc, vaut mieux aller un peu plus loin.
J'imagine que c'est un plus, qu'elle mange plutôt de l'herbe fraîche que du fourrage, du foin.
Pour la santé de l'animal, ouais. Elle se régale. Les brebis, elles sont heureuses d'être là-bas, c'est sûr.
Parce qu'elles font la tête quand elles rentrent à la maison.
Elles courent un peu partout, ouais. C'est vrai qu'elles ont du mal à trouver leurs limites.
Quand tu mets les bêtes en estive, tu t'appuies sur des bergers, des bergères, des gens que tu prends là-bas ou des gens qui sont d'ici?
Non, Mélanie, qui garde nos brebis en ce moment, là, elle est de Nancy.
Nancy. Et alors, ça se passe comment? Tu les trouves comment, ces gens-là? Par bouche à oreille? Par, je sais pas, il y a un pôle emploi spécial berger des estives?
Ouais, il y a peut-être un pôle emploi berger. Ouais, je sais pas. Sur Facebook.
Ah ouais?
Mais ouais.
Ah, moi, je suis largué Facebook.
Mais tiens, j'aimerais bien préciser 3 choses là autour du salariat agricole. Parce que je trouve, en Aveyron, on se pose la question de... On ne trouve personne pour salarier des personnes sur les fermes. Et pour garder en montagne, je passe quasiment jamais d'annonces. Je regarde sur les différents sites, enfin, il y a des blogs, il y a un peu Facebook, c'est sûr, mais il y a plus que ça. J'en rencontre un ou deux et j'ai rarement de difficultés à trouver un berger ou une bergère. Mmh. Et je pense qu'il y a eu un gros boulot de fait par, là, l'occurrence, ça peut être la Chambre d'agriculture aussi, ou les bergers qui ont été revendicatifs avec la mise en place d'une convention collective, avec des exigences au niveau des salaires et tout ça. Et donc, s'il y a une rémunération, il y a du monde qui cherche à travailler dans ce boulot-là. Et je pense que... En Aveyron, notamment, où on cherche beaucoup de salariés agricoles, on ferait bien d'essayer de comprendre comment on peut rémunérer à leur juste valeur les personnes et regarder un petit peu quelle convention et comment on pourrait mettre en place une convention collective qui valorise le métier.
Et donc, toi, tu as combien d'hectares ici, là ?
J'ai 80 hectares, il y a 40 hectares de bois. Il y a 20 hectares qui sont labourables, à peu près 20 hectares de labourables, et 20 hectares de prairies naturelles, de vallées pentues.
D'accord. Voilà. Et c'est là que tu les fais paître ?
Ouais, entre autres, oui, mais même dans les bois, elles pâturent un peu partout.
Ah ouais, d'accord. Donc depuis 1985, tu es dans l'agriculture, ça fait 35 ans. À ton avis, l'agriculture, dans 10 ans, dans 20 ans, elle ressemblera à quoi ?
Non, j'ai aucune idée de ce que va devenir l'agriculture. Peut-être le constat que je peux faire, c'est une espèce, ma vision, l'état des lieux qu'il y a aujourd'hui entre le moment où on s'est installé et l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, il y a eu un fossé qui s'est créé entre une agriculture qui est au top de la modernité, entre guillemets, intensive, très productive, et de l'autre côté, une agriculture un peu paysanne. Et donc, c'est compliqué d'être à cheval entre les deux. Enfin, la volonté n'est pas d'être à cheval entre les deux, mais par exemple, pour les outils qu'on utilise en Cuma, on a des outils de plus en plus gros. Et c'est compliqué d'utiliser ces outils. Jusqu'à présent, je disais que c'était pas très grave mais là, depuis quelques années, c'est compliqué. On a des 160, des 180 chevaux en tracteur et il faut les faire passer dans les petits chemins et tout ça. C'est compliqué. Hein. Ouais. Donc, j'espère qu'on arrivera à inverser les choses. Je pense que la vente directe, c'est une bonne chose, mais c'est quand même très marginal par rapport à la production dominante. Ce que je crois, c'est que le réchauffement climatique est une réalité, qu'il faudra consommer beaucoup moins de viande. On ne va pas pouvoir nourrir le monde comme on nourrit la population française. Il va falloir faire des choix alimentaires. Pour produire un kilo de viande d'agneau, il faut presque, je sais pas moi, un kilocalorie, c'est énorme. Donc il faut. La France est couverte de maïs et de céréales pour nourrir les animaux. La France, elle n'est pas couverte de céréales pour nourrir les hommes. Elle est couverte de céréales pour nourrir les animaux. Donc c'est pas logique. Ouais. Du maïs, on part des Pyrénées jusqu'à Poitiers, il y a du maïs partout. Et donc ça, c'est pour nourrir les animaux qui sont en élevage intensif, des choses comme ça.
Mais bon, à ton avis, c'est quoi qui marchera le mieux ? C'est les très gros ou c'est les petits petits ?
Ben, malheureusement, je pense que malgré tout, les très gros, c'est eux qui ont le pognon et qui ont les terres. Je pense que les terres, pour un porteur de projet qui s'installe aujourd'hui, c'est vachement compliqué d'avoir accès au foncier, à la terre. Mmh. Et donc, s'il n'y a pas une bagarre globale qui est menée pour essayer de privilégier une certaine agriculture, on n'y arrivera pas. D'autant plus que les aides PAC sont des aides à l'hectare. Oui. Alors, il y a des gens qui achètent des terres uniquement pour avoir un peu plus d'aide à l'hectare. Oui. Et donc, c'est complètement pervers, le système. Il faudrait mettre des plafonds. J'ai une petite idée de ce qu'il faut faire. Mais il faut le faire avec le législateur. Et ce n'est pas les paysans qui vont... Enfin, les paysans, ils ont la tête dans le guidon. Ils voient que leur intérêt. Il faut que la population donne un cap à l'agriculture. Enfin, on a été capable de se bagarrer contre les OGM, mais c'est une petite approche. Et l'élevage sera légitime si on le fait dans des conditions qui sont pastorales. On ne peut pas faire des agneaux en hors-sol, on ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut que ce soit pastoral, il faut que ce soit qui est lié à la terre, des choses comme ça. On peut pas... C'est terminé, ce genre d'agriculture. Hein. Oui. Tu avais noté des trucs, là, tout à l'heure.
Ah ouais.
Tu n'as pas bien répondu aux vacances. Je trouvais que c'était important. Mais non, mais
comment
justement.
On part en vacances.
Parce que justement, déjà, le système des brebis 3 mois en estive, ça allège bien l'été.
Ouais.
Donc, nous, on peut partir en vacances. Mmh. Et je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de paysans qui ne partent pas en vacances et qui se plaignent de bosser jour et nuit, ouais. 365 ouais. jours par an. Mais juste pour dire qu'il y a d'autres façons de faire, quoi, ouais. c'est possible.
Il y a des gens, ils ont du mal à lâcher leurs animaux. Ils ont peur presque.
Ouais, ça, c'est encore autre chose, ouais. Mmh. Oui, il y a ceux qui veulent pas trop, enfin, ouais. qui le sentent pas. Mais il y a aussi ceux qui disent qu'ils peuvent pas. Mmh. Mais ça marche aussi avec un système qu'ils ont mis en place et où ils n'arrivent pas à... Et je pense que ça va aussi avec la partie endettement. Tu as posé une question sur l'endettement
ouais,
et tout.
Ouais.
Et Daniel n'a jamais été très, très endetté. Enfin, pour une ferme, c'est assez ridicule, quoi.
Ouais.
Il a jamais... Bah, déjà, dans le matériel, il n'a jamais beaucoup investi grâce à l'Acuma. Mais ça, c'est un choix aussi. Hein. Ouais. Ça veut dire que le jour où tu veux l'épandeur à fumier, il n'est pas forcément disponible. Il faut t'adapter. Enfin, il t'a présenté ça succinctement et de façon assez rose, mais... Évidemment, il y a des inconvénients et des contreparties, mais du coup, au niveau du Crédit Agricole, tu es quand même beaucoup moins dépendant que si tu as ton propre épandeur à fumier avec l'énorme tracteur qui va devant, parce que sinon, tu ne peux pas monter. Enfin bon.
Si on est paysan, c'est grâce à un gars qui est décédé aujourd'hui, hein, qui s'appelait Marcel Souchon, sous-directeur du Crédit Agricole, qui a été maire de Requista et qui a cru à notre projet. Ouais, c'est une référence, c'est lui qui a créé la Coupiagaise à l'époque. Et ce que j'aimerais rajouter aussi, je pense que le métier de paysan, c'est un métier qui prend du temps et qui est contraignant. Et donc, il faut faire quelque chose qu'on aime et il faut orienter son boulot vers des choses qu'on aimerait, qu'on désire faire pour que le boulot devienne plutôt ludique et plus joyeux que de se dire, allez, il va falloir labourer 30 hectares, il va falloir... Enfin, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas voulu traire les brebis, par exemple.
Mais bon, l'agriculture reste ouverte à la jeunesse. Il y a encore un bel avenir, il y a de beaux métiers. Ça ne va pas être complètement industrialisé non plus, l'agriculture.
Malgré tout, je ne crois pas. Hein. Et puis, on les voit bien, tous les nouveaux porteurs de projets qui arrivent, il y en a plein qui ont des envies qui sont complètement différentes et complètement... novatrice par rapport à ce que moi j'ai fait pendant 40 ans ou par rapport à des agricultures dominantes. Non, je pense que c'est vrai qu'il y a la place pour ces gens-là qui... Voilà. Mais ça va être compliqué que ces gens-là deviennent une majorité et produisent de l'alimentation des Français. Ça, j'y crois pas trop. Quoi. Mais si on veut... que ça devienne majoritaire, et ben voilà, il faut taper du poing sur la table.
D'accord. Il va falloir se battre.
Voilà.
Ouais. Moi, je voulais ajouter que je trouve dommage qu'en fait, au niveau médiatique, les agricultures les plus médiatisées en ce moment, ce soit l'agriculture industrielle, soit les tout petits systèmes qui, ouais. en fait, font un peu ricaner les très gros et même la plupart des gens quoi, qui se disent c'est surréaliste, enfin, ça, économiquement, c'est pas viable et tout. Et en fait, le créneau des fermes entre les deux en agriculture ouais. paysanne voilà, qui ouais. permettent à une famille de vivre, ce créneau-là, il n'a pas tellement d'image... dans les médias, enfin, il n'est pas très tourné vers l'extérieur. Et du coup, voilà, on voit beaucoup de films sur des petits trucs, genre traire 10 ânesses pour faire du savon. Enfin, j'ai rien contre le lait d'ânesse, mais ces choses-là qui ne sont pas très crédibles économiquement, même s'il y en a 2 ou 3 qui arrivent à faire des choses qui tiennent la route. Quoi.
Est-ce que vous l'avez conseillé à votre fille ?
On en a parlé, elle est restée maître de ses envies, de ses choix. Hein, donc,
elle n'a pas choisi ça.
Non.
Eh bien, elle travaille dans une chambre d'agriculture et d'accord. dans le pastoralisme.
D'accord.
Donc, elle travaille en montagne, dans les Pyrénées, sur les estives, sur les transhumances, en Haute-Garonne.
L'avantage du métier de paysan, c'est que on vit, notre vie, c'est sur le lieu de travail, et donc eh ben, on va aller chercher les enfants à l'école en même temps, on peut travailler sur faire un abri pour le bois, faire un peu de jardin, et puis après aller sur la ferme, mais... on est actif 365 jours par an, mais tout le monde est actif 365 jours. Toi, tu peux aller boire un coup chez le voisin et revenir travailler. Et voilà, c'est un style de vie, c'est une agriculture familiale. Ça s'arrête pas, le travail ne s'arrête pas à la porte de la bergerie. Je pense que c'est un mélange de tout ça qui font que... Eh ben, c'est pas forcément des contraintes et c'est pas. Moi, j'ai bossé en usine. Hein, et la différence entre l'usine et. Enfin, je suis mille fois plus heureux ici que dans mon travail que je faisais, alors que j'ai pas du boulot spécialement compliqué, hein, et spécialement physique, et spécialement. Non, on a une chance que certaines ne savent pas mesurer.
Sur ces bons mots, merci à Odile et Daniel pour avoir partagé leur expérience à notre micro. Vous pouvez réécouter ce programme sur le site de radiosaintafrique.com. Prochaine parole rurale, la semaine prochaine, même heure, même antenne.